Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Trois journalistes français sont convoqués par la DGSI suite aux révélations de Disclose et de ses médias partenaires sur l'utilisation d'armes françaises dans la guerre au Yémen. On leur reproche d'avoir dévoilé une note classée confidentielle défense. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour compromission du secret de la défense nationale. Le journaliste Geoffrey Livolzi, cofondateur de Disclose et l'un des trois mis en cause, réagira au micro de l'atelier des médias de RFI. On prendra ensuite la direction d'Abidjan à la rencontre du réalisateur de la série télévisée Invisible, diffusée depuis octobre sur Canal+ Afrique. Invisible raconte le quotidien des gangs d'enfants d'Abidjan, ce qu'on appelle communément les microbes, qui terrorisent les quartiers populaires de la capitale ivoirienne. Et Mondoblog Audio restera justement à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
http://atelier.rfi.fr
Bonjour Geoffrey Livolzi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant et cofondateur de Disclose. On vous avait reçu dans notre émission du 22 décembre, alors que vous veniez de terminer une campagne de financement participatif pour lancer Disclose.ngo, qui est, je le rappelle, un média d'information à but non lucratif. Lundi 15 avril, Disclose a publié sa première enquête en partenariat avec Arte Info, la cellule investigation de Radio France, Combini, Mediapart et The Intercept. Cette enquête, qui s'est appuyée sur une note classée confidentielle des Défense a révélé que des armes françaises, comme des chars Leclerc et des Mirage 2000, ont été utilisées dans la guerre au Yémen. Alors on en parlait en bref dans notre émission de la semaine dernière. Et mercredi 24 avril, on a appris qu'une enquête a été ouverte il y a 4 mois par le parquet de Paris pour, je cite, « compromission du secret de la défense nationale ». Et trois journalistes qui ont révélé cette affaire, dont vous, Geoffrey Livolzi, sont convoqués par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité intérieure pour une audition. Tout d'abord, est-ce que vous vous attendiez à une telle convocation ?
Alors écoutez, on a découvert, nous, hier, qu'une enquête avait été ouverte, selon les informations de l'AFP, en décembre dernier par le ministère des Armées. Donc, dans le cadre de cette enquête, on a reçu cette convocation au nom de la compromission du secret de la défense nationale. Donc, on a été assez étonné en tant que journaliste d'être aujourd'hui pénalement responsable d'avoir fait notre métier.
Donc, jusqu'ici, Paris a invariablement dit que les armes françaises étaient uniquement utilisées à des fins défensives dans le conflit au Yémen, pas sur la ligne de front. Et vos révélations disent en fait que des chars Leclerc ont sans doute participé aux offensives. C'est bien cela ?
Ben, nos révélations, elles font que appuyer ce que dit le document de la DRM, de la Direction du renseignement militaire français, qui est que nos armes sont utilisées massivement dans le conflit au Yémen et qu'en date du 25 septembre 2018, ces armes étaient sur le territoire yéménite, que ça soit les chars Leclerc ou la participation des Mirage, des avions français vendus aux Émirats Arabes Unis, qui participent au bombardement. Donc ces armes sont impliquées dans le conflit. Et malgré cela, le gouvernement dit qu'ils n'ont pas connaissance de l'utilisation directe des armes françaises dans le conflit au Yémen. Et ce que vient dire ce document qu'on a dévoilé vient contredire leur version. Et finalement, c'est ce qui est peut-être assez ironique, c'est que ce que nous publions et ce que nous avons après mené comme enquête, mais ce que nous publions en premier lieu, c'est ce document qui contredit la version officielle. Et ce document, c'est leur propre service qui les ont fait.
Alors, les médias associés à Disclose ont publié mercredi un communiqué commun qui indique, je cite, que ces documents confidentiels présentent un intérêt public majeur, celui de porter à la connaissance des citoyens et de leurs représentants ce que le gouvernement a voulu dissimuler. Vous n'êtes pas, pour l'instant, à proprement parler mis en cause, puisque vous allez vous rendre libre à la DGSI, mais voyez-vous cela comme une intimidation ?
Bah, de base, la volonté de nous auditionner sous le statut de suspect libre fait que nous pouvons être mis en garde à vue par la suite, mais surtout c'est une méthode qui a pour objectif de connaître nos sources. Et c'est là tout l'intérêt de leur enquête, c'est qu'ils cherchent à contourner la protection des sources des journalistes en nous auditionnant dans le cadre de cette convocation pour pouvoir avoir des informations sur nos sources.
Et quelle va être votre ligne de défense, si je puis dire ?
elle va être très claire, c'est que nous allons évoquer le secret des sources, des journalistes. Donc nous allons exercer notre droit à garder le silence et à ne pas donner d'informations sur nos sources.
Pouvez-vous justement nous dire si votre source ou vos sources, le ou les lanceurs d'alerte qui vous ont permis de sortir cette enquête, sont menacés ?
Aujourd'hui, il est clair que le gouvernement cherche à trouver qui sont ces lanceurs d'alerte, qui sont nos sources. Elles ne sont aujourd'hui, à notre connaissance, pas menacées, parce que nous avons, comme nous l'avions expliqué dans notre enquête, maintenu un anonymat total sur nos sources, parce que malheureusement, aujourd'hui en France, la loi de protection des lanceurs d'alerte ne couvre pas le secret défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnes qui lancent une alerte à partir de documents ou d'informations couvertes par le secret défense ne peuvent revendiquer le statut de lanceur d'alerte. Et donc, ils nécessitent aujourd'hui une protection de la part des journalistes.
Est-ce que cela vous rassure de voir l'unanimité de la profession derrière vous ? On a vu déjà des communiqués du Syndicat national des journalistes, etc., qui insistent sur le sérieux du travail de Disclose.
Nous sommes restés que sur les faits. Et ce que nous avons fait, ce que notre enquête montre, n'est que factuel. Nous décryptons ce qui se trouve dans la note de la DRM et nous avons, sur le terrain, constaté la présence des armes françaises, leur utilisation dans des batailles qui impliquent la coalition, leur participation au bombardement. Donc on est resté sur des faits et uniquement les faits. Et je pense que c'est ça aussi qui aujourd'hui fait qu'on obtient un soutien de la profession, mais aussi surtout parce que c'est une atteinte sans précédent à la liberté d'informer et à la liberté d'être informé des citoyens. Et c'est aujourd'hui ce qui se joue actuellement, c'est cette question-là de pouvoir exercer notre métier et de pouvoir informer sur des informations dites d'intérêt public nos concitoyens.
Donc on le comprend bien, avec cette affaire, Disclose a mis le doigt sur un sujet plus que sensible. C'était exactement la promesse fondatrice de Disclose, d'agir pour la transparence et pour la liberté d'informer.
Voilà, c'est publier ce document fait partir de nos missions. Et notre mission, c'est d'informer dans l'intérêt du public. Et en publiant ce document, nous faisons œuvre de transparence, parce que ces informations-là, nous l'avons déjà dit, nous l'avons même dit au moment de la publication, ne mettent pas en danger des opérations militaires françaises, ne mettent pas en danger des agents sur le terrain. Ces documents ne concernent que des armes vendues par la France à des pays tiers. Donc, on utilise aujourd'hui le secret défense pour couvrir des transactions commerciales. Donc, clairement, nous voulions, en mettant sur la place publique ce document, permettre aux ONG, mais pas seulement, à la représentation nationale, de se saisir de ces informations, parce qu'aujourd'hui, le contrôle des armes doit être fait dans le cadre des institutions démocratiques et dans le cadre de l'Assemblée nationale. Et jusqu'à présent, les députés, les commissions de la défense qui avaient à plusieurs reprises auditionné la ministre de la Défense, Florence Parly, ou le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, n'avait jamais obtenu de réponse ou des réponses expliquant que ces armes n'étaient pas impliquées. Donc, on montre que le pouvoir exécutif a volontairement dissimulé, depuis au minimum le 3 octobre 2018, sa connaissance sur ce dossier.
Pour quand est prévue la prochaine enquête de Disclose ?
Alors, des enquêtes sont en cours. Comme vous le savez, les enquêtes de Disclose peuvent durer plusieurs mois, donc on ne peut pas, à ce stade, vous dire à quel moment sortira la prochaine.
Est-ce que vous travaillez sur un deuxième volet autour du Yémen, encore une fois ?
Alors, nous allons bien sûr poursuivre et suivre le développement autour de ces enquêtes.
Merci Geoffrey Livolzi.
Je vous remercie.
Et on ne manquera pas de faire le suivi de cette affaire dans l'atelier des médias de RFI. Et j'invite ceux qui nous écoutent à se rendre sur disclose.ngo pour lire l'enquête sur les armes françaises au Yémen. Elle s'intitule Made in France.
Atelier@rfi.fr.
En Birmanie, la Cour suprême a rejeté mardi l'appel de deux journalistes de l'agence Reuters emprisonnés depuis décembre 2017. Depuis 16 mois, donc, ces deux journalistes birmans dorment derrière les barreaux. Quand ils ont été arrêtés, ils enquêtaient sur un massacre de Rohingyas. Les autorités les accusent d'avoir obtenu des documents classifiés sur des opérations militaires, des accusations qu'ils ont toujours réfutées, affirmant avoir été piégés pour les empêcher de poursuivre leur travail. Ils risquent jusqu'à 14 ans de prison. Leur principal espoir, c'est d'obtenir une grâce présidentielle, mais jusqu'ici, Aung San Suu Kyi est pour l'instant restée sourde à leurs appels. Rappelons que pour cette enquête, les deux journalistes de Reuters ont été récompensés par le prix Pulitzer et que l'UNESCO leur attribuera début mai le prix mondial de la liberté de la presse. La journée mondiale de la liberté de la presse sera vendredi 3 mai. Et pour cela, notre émission de la semaine prochaine portera notamment sur les violences des forces de l'ordre contre les journalistes en France. Nous reviendrons notamment sur l'affaire Gaspard Glantz qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Gaspard Glantz, c'est un journaliste français qui a été arrêté il y a quelques jours dans une manifestation de gilets jaunes et qui a passé deux jours en garde à vue. Il lui est maintenant interdit de couvrir les rassemblements. Par le biais de leur société de journalistes, les SDJ, 22 rédactions françaises, dont RFI, ont apporté leur soutien à Gaspard Glantz, empêché, je cite, de faire son travail de journaliste. Vous êtes en train de perdre le contrôle de votre vie numérique. Voilà le message que le New York Times veut faire passer avec son Privacy Project. Cette enquête au long cours démontre à quel point les internautes, comme vous et moi, n'ont aucun contrôle sur les énormes quantités de données que nos activités numériques produisent. Même quand nous croyons être discrets, même quand nous sommes peu actifs ou absents des réseaux sociaux, nous sommes tracés. Retrouvez le lien pour vous abonner à la newsletter du New York Times Privacy Project sur le compte Twitter @atelier_media. Invisible, c'est le nom d'une série diffusée depuis octobre 2018 sur Canal Plus Afrique. C'est surtout la première série 100% africaine à remporter un prix en France, le prix de la fiction francophone étrangère au Festival de la fiction télé de La Rochelle. Invisible raconte le quotidien de ces gangs d'enfants, ce qu'on appelle communément les microbes, qui terrorisent les quartiers populaires d'Abidjan. En reportage pour l'atelier des médias dans la capitale ivoirienne, Mélissa Barra a rencontré Alex Ogou, c'est le réalisateur de cette production à succès.
Invisible, c'est une série qui parle de ce qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire les microbes. Les microbes sont des gamins en conflit avec la loi, c'est la nouvelle terminologie aujourd'hui. C'est une délinquance qui se caractérise par une ultra-violence en fait, parce qu'ils opèrent malheureusement avec des machettes et avec une grande sauvagerie. C'est une série qui a pour but de parler de ce phénomène, d'où il vient et comment ces gamins-là, en tout cas, vivent entre eux. Qu'est-ce qui les emmène à devenir ces microbes et comment peut-être, j'espère, en tout cas, apporter quelques pistes de réflexion sur les responsabilités engagées dans ce phénomène, en fait.
Comment est venue l'idée de créer cette série ?
L'idée est venue lorsque je suis arrivé à Abidjan il y a 3 ans, en 2015. J'ai entendu parler dès les premiers jours d'attaques de microbes la veille, c'est-à-dire ils ont fait des descentes, ils ont éventré des gens, ils ont pillé des endroits, des maquis, des bistrots.
Dans la presse ?
Dans la presse, ouais, que ce soit dans la presse. Mais non, ce qui m'a interpellé, c'est en fait d'en entendre parler par des amis. Ce sont des amis d'abord qui m'en ont parlé. Ensuite, une fois dans un taxi, le taxi qui m'en parle comme ça spontanément. Mais vraiment, je vous dis, ça s'est passé 3 jours après mon arrivée. Donc forcément, ça m'a interpellé. Et d'autant plus que ce qui m'a d'autant plus interpellé, c'est que la réaction, la manière d'en parler des adultes était, il faut exterminer ces enfants, il faut les, il faut les exterminer. Donc moi, évidemment, c'est quelque chose qui me choque quand on parle d'enfants. Et sans évidemment dédouaner leur côté violent, ultra-violent et criminel, évidemment. Mais je pense que en tant qu'adulte, on a une responsabilité, déjà du fait, quand on est confronté à de la violence juvénile, qui est de chercher à comprendre, en fait.
Et du coup, vous avez décidé de créer une série autour d'eux. Comment vous avez enquêté sur qui ils sont, où ils vivent, Comment ils interagissent avec leur quartier, par exemple?
Alors, ce qui est assez surprenant et déroutant, en fait, c'est que ce sont des gamins qui vivent dans des... Bon, c'est un phénomène qu'on voit principalement dans les communes d'Abobo et de Yopougon.
Qui sont, oui, des communes d'Abidjan ou qui concentrent les quartiers, on va dire, les plus pauvres. Exactement. D'Abidjan.
Voilà, ce sont les quartiers les plus pauvres d'Abidjan et les plus peuplés, surtout. Et voilà, en fait, vous avez dans ces quartiers, en fait, une promiscuité entre ces gamins qui, la journée, on va dire, ont des parents ou d'autres qui sont vraiment des enfants des rues. Mais en tout cas, vous pouvez les voir, les croiser dans la journée lorsqu'ils ne sont pas sous emprise de la drogue. Et le soir venu, ce sont des microbes, ce sont des sanguinaires. Donc, il y a une espèce de chose bizarre qui se passe, c'est que les gens dans leur quartier les côtoient, en ont peur à un moment donné. Mais donc c'est un peu étrange. Donc moi je pour rentrer dans ce sujet, je me suis déplacé dans ces quartiers, je suis installé dans des maquis, j'ai posé des questions, j'ai rencontré même des microbes, je les ai rencontrés la journée, n'est-ce pas, pour pouvoir essayer de communiquer avec eux
sans danger.
Et j'ai appris beaucoup de choses sur les motivations, sur en tout cas le sur la fracture, voilà, sur la fracture qu'il y a entre cette jeunesse et le reste de la population. Parce qu'on parle en fait des gens qui sont déclassés, on parle de petites gens, donc on parle de tout ce microcosme de gens qui ne sont, font pas partie de ce qu'on appelle l'émergence en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre invisible, et non pas microbe invisible, parce que au final, c'est beaucoup plus large que de parler de cette criminalité, c'est de parler des laissés pour compte, de ceux qui, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les capacités de suivre ce qu'on appelle un pays en marche, en émergence, avec des taux de croissance dont on veut bien parler volontiers en Occident quand on parle de l'Afrique, mais ceux qui ne suivent pas ça, en fait, on ne les voit pas, on ne veut pas les voir, en fait.
Justement, les personnes que vous avez souhaité représenter, donc ça a été des acteurs, est-ce que c'est également des habitants des quartiers où vous avez tourné?
Tout à fait. Le casting a été fait principalement dans ces quartiers-là, c'est-à-dire à Bobo et au Pougon, pour la simple et bonne raison que, en fait, au départ, quand j'ai envisagé le projet, j'avais l'utopie de penser que je pourrais prendre des vrais enfants microbes pour leur faire jouer leur propre rôle comme une espèce de catharsis, en fait. Voilà, que pour leur permettre de s'extraire en se jouant, en fait. Et on a fait un casting avec des vrais microbes qui a été assez confidentiel, évidemment, parce que il fallait que la relation de confiance soit là pour qu'ils puissent venir, qu'il n'y ait pas la police. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que voilà, je n'ai pas eu l'occasion de tomber sur des personnes avec qui j'aurais pu aller plus loin. Donc on a ouvert le casting à d'autres enfants, des écoliers, mais toujours en gardant l'idée qu'on fait ça, on les prend dans ces quartiers-là. Parce que ils connaissent, évidemment, ils vivent avec ce phénomène, ils vivent avec ces jeunes. Et voilà, donc j'ai un peu la je sais pas si c'est une faiblesse, mais en tout cas j'ai tendance à penser que prendre des gens qui sont du terrain, qui sont du cru, au-delà d'approcher une véracité, c'est aussi peut-être donner un exemple à ceux qui les entourent, donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, de peut-être voilà, de voir leurs copains ou leurs connaissances aller dans de l'art plutôt que d'aller dans la délinquance et de ne rien faire en fait. Voilà, c'est ça qui a un peu guidé le choix de les prendre dans ces quartiers.
On remarque aussi que vous avez pris le soin, entre guillemets, d'introduire dans les dialogues un peu de nouchi, c'est-à-dire l'argot ivoirien, un peu ce qu'on parle couramment dans les rues. Oui. Pourquoi ?
En fait, pour la bonne raison que c'est le langage principal qu'ils parlent, quoi, que les microbes parlent. Et que, alors évidemment, entre faire une transposition de la réalité à la fiction, si ça devait être tout en nouchi, ça allait être très compliqué pour des raisons de sous-titrage, de commercialisation même de la série.
Oui, parce que petite parenthèse, vous avez aussi pris le soin de mettre des sous-titres à chaque fois qu'il y a des passages en nouchi.
Voilà, on a mis des sous-titres parce qu'on sait bien que la série sera vue par d'autres personnes que des Ivoiriens, et encore tous les Ivoiriens ne comprennent pas le nouchi. Mais c'était important quand même pour moi que le nouchi soit présent, parce que ce serait dénaturer même la nature des personnages en fait.
Comment éviter de verser dans le feuilleton moraliste ou dans des stéréotypes un peu péjoratifs de ce qu'est ce quartier ? Parce que ce n'est pas uniquement de la violence.
Ah non, c'est clair. Mais je crois que pour les personnes qui ont vu les 10 épisodes de la série, Et c'est les retours qu'on a eus, hein, c'est que je crois pas qu'on soit dans, d'une part, dans la stigmatisation, d'autre part, dans le manichéisme.
Pas de spoiler, par contre, s'il vous plaît.
Je vais éviter les spoilers, mais je crois que, enfin, vraiment, ce qui en ressort des téléspectateurs, c'est qu'on est sans cesse ballotté, en fait, entre, enfin, dans les émotions. À la fois la compassion, la colère, la joie, parce qu'il y a aussi de la joie dans la série, vraiment, enfin, j'encourage les gens à la voir, parce que je crois que malgré tout, j'ai essayé de montrer ce qui reste de beau dans la noirceur, en fait. C'est, leur environnement est noir, mais ce sont des belles personnes. Et moi, je respecte les gens, en fait. Je respecte les petites gens. Et les retours que j'ai eus sont... mais les décors sont magnifiques. Mais pourtant, ils sont horribles, en fait. Vous comprenez ? Ce sont des décors horribles, mais pour moi, c'était très important de bien les filmer.
Voilà. Et justement, pour parler de ces décors, entre guillemets, l'esthétique, la photographie est remarquable dans la série. C'est d'ailleurs, je pense, en partie ce qui vous a valu de gagner le prix de la fiction francophone étrangère au prix de fiction de La Rochelle, au Festival de fiction de La Rochelle. C'est une première déjà pour une équipe qui est 100% africaine. Donc, le fait de créer des séries qui sont de plus en plus novatrices, on va dire, parce que maintenant il faut concurrencer toutes les séries qu'on peut trouver dans le monde entier, qui Exactement. Sont de plus en plus accessibles. Quelle est la difficulté, en fait, de faire des séries aujourd'hui pour vous ?
Alors, il y a séries et séries, parce que je pense que quand vous voyez le paysage audiovisuel africain, ouest-africain, voilà, il y a différentes catégories, quoi. Mais en tout cas, pour ce type de série qui inaugure Invisible, la difficulté, je pense, jusqu'à présent, était liée au manque de structuration, au manque de formation des acteurs de la chose, où je sais que, par exemple, un groupe comme Canal+, depuis quelques années, a déjà initié en fait des projets qui devaient être du même acabit qu'Invisible et qui malheureusement n'ont jamais réussi à voir le jour ou se montrent de manière compliquée. Je pense aussi, bon, évidemment, comme j'ai dit, il y a un grand manque de formation. D'une manière plus directe, je vais dire que je pense qu'il y a aussi un manque de culture générale sur ce domaine, en fait, hein, sur apprendre ce que c'est cet art, apprendre ce que c'est un plan, un film, comment on fait une narration, en fait, visuelle. Donc, je pense que pour beaucoup de ces raisons, on a eu du mal à sortir des projets comme ça. Je sais pas pourquoi, moi, aujourd'hui, je peux sortir une série comme Invisible. La seule, peut-être, explication que je peux donner, c'est que, oui, moi, j'arrive avec ce bagage-là, puisque j'ai été formé dans ce cursus-là. Et j'arrive aussi avec... ça fait 3 ans que je vis en Côte d'Ivoire. Donc, à peine arrivé, je me suis mis sur ce projet. Et j'ai conscience que n'ayant pas grandi ici localement, il y a certains blocages psychologiques, narratifs, que je n'ai pas. Donc, ils me permettent d'aborder des sujets aussi lourds, d'aborder aussi des esthétiques qui ne sont pas forcément épurés, qui sont pas pratiqués localement. Voilà, je dirais juste que c'est la richesse de ma double culture, comme on a une richesse de double culture quand on est en France aussi, qui permet que ce type de projet puisse voir le jour.
Et dernière question, vous vivez ici depuis 3 ans, vous comptez peut-être rester encore un petit moment. Quels sont vos projets en Côte d'Ivoire maintenant ?
Ben écoutez, je suis déjà sur ma prochaine série et c'est une j'ai encore la chance que ce soit une série qui sera création originale Canal+ Original exactement, mais évidemment qui n'a rien à voir avec Invisible, qui est une série qui parle d'un des patrimoines de la Côte d'Ivoire, je peux pas trop en dire, mais voilà, c'est une série qui sera beaucoup plus luxe qu'Invisible. Et donc voilà, cette série-là donc va être en chantier sur 2019. Et après, il y a une autre série que je dois faire qui est beaucoup plus lourde puisqu'on va la tourner dans plusieurs pays. Et qui a encore un autre volet qui parle qui parle d'un pan que l'Afrique possède, mais qui est très peu exploité. Voilà, ça vous en saurez plus tard.
Merci beaucoup, Alex Ogou.
Merci à vous.
Invisible, ce sont 10 épisodes de 52 minutes diffusés sur Canal Plus Afrique. Et Alex Ogou a confié par ailleurs à Mélissa Barra qu'il aimerait organiser une diffusion publique dans les maquis et que la bande originale de la série devrait sortir prochainement. Mon blog audio nous permet de rester encore un peu dans ces quartiers d'Abidjan. Le blog La Côte d'Ivoire au jour le jour est revenu dans un billet sur ces jeunes délinquants des rues. Notre Mondo correspondant Kao Fissui a rencontré une victime et un adolescent qui fait partie d'un de ces gangs.
Comme les enfants soldats du Libéria ou de la Sierra Leone, les populations d'Abidjan ont découvert il y a quelques années le visage hideux de la criminalité juvénile. Des enfants de 9 à 17 ans rompus à l'art du maniement des armes blanches que l'on appelle sur les bords de la lagune Ébrié les microbes. Les microbes sont un véritable problème de société, pire, un fléau urbain. Leurs victimes se comptent par dizaines. La violence de leur mode opératoire laisse encore effrayer tous ceux qui ont eu le malheur de les croiser. Et chacun d'entre eux a une histoire pathétique à raconter. C'est le cas de Yakou Sangaré, résident du quartier Marlé à Bobo. Ce père de famille est un miraculé. En effet, il porte encore sur lui les stigmates de son agression. Il raconte.
7 microbes m'ont attaqué au niveau de la boulangerie de Samaké. Le premier m'a assommé avec une barre de fer. Le second m'a pratiquement arraché le bras avec un coup de machette. Et le dernier m'a poignardé dans le ventre.
C'est seulement après cette attaque à l'arme blanche que les microbes vont le soulager de sa bourse avant de le laisser près de sa moto en croyant qu'il allait se vider de son sang. Les microbes sont bien présents dans la cité. Mais il n'est pas aisé de les retrouver. Nous les voyons sans jamais les soupçonner. Du sage écolier à l'apprenti mécanicien en passant par le turbulent collégien, leurs profils sont très variés. Celui qui se présente à nous sous le nom d'Ibrahim s'appelle Jackis dans son gang. Il est ferrailleur la journée et microbe la nuit tombée. Il justifie son choix par la pauvreté dans laquelle vit sa famille.
Tu sors chaque matin, tu dis que tu travailles, mais tu n'as rien sur toi. Tu as obligé la nuit d'agresser les passants pour amener de l'argent à la maison. Oui, c'est vrai, je suis microbe, mais mes parents ne le savent pas.
Quel que soit le motif avancé par les microbes pour justifier leurs actes, les violences urbaines ne semblent pas diminuer, malgré le baïgon, la répression policière et un programme de resocialisation pour les anciens jeunes délinquants.
C'était Kao Fissui du blog La Côte d'Ivoire au jour le jour. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Mélissa Barra et Léo Caravagna, à la réalisation Simon De Creuse, au micro Steven Jambeau. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. Notre émission viendra en écho à la Journée mondiale de la liberté de la presse. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.